France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux Nativelle, cette semaine avec...
Jean-Paul Dubois, écrivain encore pendant une trentaine de minutes.
Cinquième épisode, La vie me fait peur. Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Nous vous retrouvons pour notre dernier rendez-vous dans votre maison de Toulouse. Nous avons évoqué votre enfance et votre jeunesse, votre métier de journaliste, vos livres et votre travail d'écrivain. Aujourd'hui, nous allons parler du reste de votre vie, une part essentielle pour vous qui avez toujours voulu rester maître de votre temps. Cette phrase, La vie me fait peur, le titre d'un roman paru en 1994, est-elle juste pour vous ? La vie vous fait-elle peur ?
Oui. La vie me fait peur dans la mesure où je sais qu'elle va s'arrêter d'un moment à l'autre. Et le problème, c'est de rester maître du peu de temps qu'on a dans une vie. Ça, c'est... On remonte peut-être à la première émission où on m'annonce que mon père peut mourir d'un instant à l'autre, alors que pour la petite histoire, il mourra 25 ans plus tard. Le fait est que je prends conscience de ce qu'est réellement le temps, physiquement, affectivement, socialement, tout ce que... Et là, je fais, sans doute, petit côté obsessionnel, je fais le compte, je me revois encore le faire, du nombre d'heures qui m'appartiennent dans une journée. C'est-à-dire, j'additionne le sommeil qui sert à rien, le travail qui sert pas à grand-chose, les déplacements qui sont nuls, et je me rends compte que j'ai quelques heures réellement à moi. C'est-à-dire ce que je veux faire. C'est un truc qui va orienter toute la vie que je vais mener par la suite, non pas vers la paresse, mais vers des métiers qui vont me permettre d'être maître de ce temps et d'inverser le paradigme qui veut que je n'ai que quelques jours à vivre pour moi dans une journée. Je vais m'arranger pour que ce que je vais donner à un employeur en travail soit toujours inférieur au temps que je vais avoir pour vivre. Parce que ce temps-là, je veux en faire ce que je veux. Il est à moi, il est unique, il est court, il est essentiel. J'ai peur de mourir en me disant « Ah, j'ai pas eu le temps ». Moi, je préfère mourir en me disant « Bon, ben écoute, t'en as vraiment profité, t'as eu une chance inouïe, c'était court, mais c'était bien ». Voilà. Donc, la vie me fait peur dans le sens où, comme on dit aujourd'hui avec cette obsession, je ne suis pas maître des horloges. Personne n'est maître des horloges. Les gens qui vous possèdent quelques heures par jour sont maîtres de votre horloge, dans la mesure où ce sont eux qui fixent le temps de votre réveil, le temps de votre travail, le temps de votre... C'est rigolo ce truc-là parce que l'obsession de la dépression, de la tristesse, ce sont des paramètres essentiels dans une vie. Comment voulez-vous travailler, partir le matin, quand vous êtes bouffé par la tristesse? C'est quelque chose qui n'est, moi, qui me paraît humainement pas admissible. C'est quelque chose de, c'est très violent de devoir passer au-delà de toutes ces douleurs intimes, de ces sentiments, ou même de ces bonheurs. Moi, quand je suis super heureux, j'ai aucune envie d'aller au boulot. C'est impossible. Ce que je dis n'a aucun sens. Et pourtant, ça a été pour moi tout le moteur de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Quelque chose qui est essentiel, mais c'est pas réfléchi. C'est une fois pour toutes, quoi. C'est-à-dire que une fois que vous avez intégré l'instantanéité et la brièveté d'une vie physiquement, que vous avez peur de ne plus voir se réveiller votre père le matin ou le voir mort dans une nuit pendant que vous dormez. La vie est différente, c'est-à-dire que vous avez envie de profiter de ce qui vous est alloué. Voilà, comme vous connaissez pas le contrat, ça détermine pas mal de choses par la suite.
Alors cette vie, Jean-Paul Dubois, elle s'ancre à Toulouse où vous êtes né, où vous avez grandi, où vous habitez depuis toujours. Et pourtant, vous dites ne pas aimer le Sud.
Non. Mais j'aime pas c'est pas le Sud que j'aime pas. J'aime pas cette forme d'irrespect qu'il y a dans le Sud, qu'on appelle la convivialité, tous ces trucs-là. Le problème est d'arriver à trouver un mode de vie commun qui permettent à chacun de pratiquer sa vie à sa façon. Le Sud est violent. On le retrouve dans la conduite, souvent dans le comportement. Mais c'est des schémas un peu idiots. C'est la théorie des climats de Montesquieu. Moi, j'aime bien cette forme de raideur et de loyauté des Nordiques. Une forme de respect commun qui est partagé. Quand je dis respect, c'est pas du tout social, c'est le respect du mode de vie de chacun. Le fait de ne pas avoir beaucoup de lumière 6 mois par an, de devoir affronter tous les jours un climat, ça donne une forme de... C'est comme les arbres, un arbre du sud, un arbre du nord, ils ont pas la même gueule. Tous les arbres qui sont ici dans la pièce que vous voyez, c'est des arbres qui ont, je crois, 2 à 3 000 ans, qui vivent quelques semaines, 2 ou 3 par an, dans une montagne très élevée du nord de l'Amérique.
Donc c'est une série de photos.
Voilà, il est évident que quand vous voyez cet arbre-là, ça a rien à voir avec un cerisier ou avec un eucalyptus. C'est une autre forme d'aborder la vie. Et je suis plus à l'aise avec le regard nordique qu'avec les regards des villes du Sud, voilà. Je ne me retrouve pas dans ces débordements du Sud. Les côtes espagnoles, ici on est tout à côté, quand vous voyez 3 mois par an, cette villa qui est grouillante, qui est débordante, qui est envahissante, je suis raide un peu là-dessus.
Vous vivez, Jean-Paul Dubois, dans cette maison où nous sommes aujourd'hui. Avec vos morts, quelle relation entretenez-vous avec eux ?
Je pense que la maison est un... C'est pas un cimetière, mais c'est un truc où vous devez tous les jours vous retrouver face à un passé familial qui est... Mais ça, je dirais pas un choix, mais si, c'est un choix. Je pourrais faire autrement. Je me suis retrouvé dans la situation de retrouver ce passé et d'y vivre et quotidiennement. C'est très chanceux de pouvoir vivre dans une maison comme ça, mais c'est encombrant, c'est quelque chose de... Il n'y a pas eu de naissance ici, il n'y a eu que des morts. Donc dans une maison qui, sur pratiquement un siècle, n'a eu que des personnes qui ont disparu ici, c'est idiot, mais quand... je marche, je vois où exactement l'endroit où certaines personnes sont mortes. Je sais ce qui a été dit dans telle ou telle pièce. C'est inconfortable et sans doute ça doit être rassurant puisque j'y vis depuis longtemps. Mais c'est bizarre de vivre dans sa maison qui n'est pas la sienne, qui est le continuum de prendre une histoire qu'on n'a pas écrite, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas désiré, et qui est là.
Et c'est le même encombrement avec votre deuxième maison, une maison dans les Landes, Jean-Paul Dubois, où c'est une maison vierge, celle-ci, de mort.
Le mot deuxième maison est embarrassant parce que bon, c'est toujours embarrassant d'avoir deux maisons. C'est une folie. Mais bon, je suis bien, je suis heureux parce que c'est petit, c'est à ma mesure, c'est moi et Hélène. C'est quelque chose pour nous qui n'a pas d'histoire. Mais, les maisons vous rattrapent toujours. J'ai eu un problème dans cette maison, qui existait déjà quand je suis arrivé, et je téléphone à un type spécialiste des pompes à chaleur. Le type arrive, et il rentre dans la maison, je le vois qu'il regarde, il me dit « Vous savez que cette maison, c'est moi qui l'ai faite, j'habitais ici. » Et là, il commence à me raconter toute l'histoire de cette maison qu'il a refaite entièrement. Pour moi, c'était une maison neuve, c'est-à-dire sans histoire. Et je me rends compte que les histoires de maison finissent toujours par vous rattraper. Le hasard fait que la probabilité que vous rencontriez le type qui a fait cette maison quand vous l'achetez 25 ou 30 ans après est assez rare. Et là, je suis rentré dans l'intimité de cette maison que je ne connaissais pas, et aussi un peu de la sienne. Et j'étais bouleversé. Je me suis retrouvé dans une mémoire qui n'était pas la mienne. J'aime bien, là vous allez finir par me prendre pour un vrai cinglé, avoir des relations avec des choses. Ça me convient. Je parle aux choses. À une époque, j'avais que des voitures qui tombaient en panne. Et je leur parlais. Je dis, toi, aujourd'hui, tu ne me laisses pas tomber. Et j'avais, une fois que je lui avais dit ça, je pensais que je l'avais convaincu de m'amener plus loin, de faire son boulot de voiture. Les outils, c'est pareil. J'ai une relation d'indien à fumer avec les objets. Sans doute, je me suis demandé pourquoi. Je pense que c'est le fait d'être enfant unique qui vous amène à créer des liens artificiels et avec les jouets, les objets, les choses. Et au bout du compte, vous apercevez que c'est pas si nul que ça, quoi. Que c'est pas si nul que ça d'avoir un lien. Mais quand vous créez un lien avec une chose, j'ai vendu, je me souviens, une Volkswagen dans laquelle avaient grandi tous mes enfants, une coccinelle. C'est la voiture que j'ai le plus aimée de ma vie. Et je l'ai vendue ici. Et la voiture, je l'ai accompagnée jusqu'au bout de la rue et je l'ai vue partir sur l'avenue. Et j'ai éclaté en sanglots en me disant, je viens de faire la plus grande saloperie de ma vie. Voilà. J'ai trahi cette bagnole, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous finissez par vivre dans un monde qui est assez irrationnel, quoi. Parce que quand vous êtes seul, les objets sont vos amis. En vous disant ça, je me rends compte de ce que je suis en train de dire et ça me fait peur.
Quelle vie, Jean-Paul Dubois, auriez-vous aimé faire dans une autre vie? Est-ce que vous auriez aimé être jardinier? Est-ce que vous auriez aimé être superintendant, comme vos narrateurs dans Tout le monde n'habite pas de la même façon?
J'aurais pas aimé être ce que je suis, je pense, si on me posait la question comme ça. J'aurais aimé travailler dans la nature, seul. Mais j'aurais aimé aussi faire un métier qui serve à quelque chose. Voilà. Il y a un truc que j'ai pas connu dans la fabrication de mon monde, de mon petit monde, je dis. J'ai gagné quelque chose et j'ai perdu le rapport aux autres en ce qu'il a. J'aurais aimé faire ce qu'est en train de devenir mon petit-fils aujourd'hui, c'est un médecin. J'aurais aimé être quelqu'un qui a une utilité. Moi, je me lève quand j'ai plus sommeil. Et je pense que se lever pour faire quelque chose qu'on aime et qui va apporter quelque chose aux autres, ça doit être un truc qui est enrichissant. Et qui doit peut-être gommer les petites inquiétudes de luxe d'un type qui a vécu ou qui vit comme moi. J'aurais pas aimé être ce que je suis. Voilà.
Le journaliste pouvait pas avoir ce rôle.
Non, non, le journalisme, c'est trop. Il y a trop de. Je suis très ambivalent, moi, avec le journalisme. Il y a un journalisme qui est indispensable et qui est. Et puis il y a tellement de journalisme qui mettent mal à l'aise, que je comprends pas. Et puis c'est fugace. Vous vous intéressez à un truc le lundi, le mercredi, ça passe à autre chose. Je suis lent, moi, je suis une tortue, j'ai besoin d'avaler, de digérer, de comprendre, de prendre du temps. J'ai pas un esprit rapide. Journalisme, c'est Speedy Gonzalez, quoi. Ça enrichit. Si vous le faites bien, ça, c'est toujours enrichissant. Vous apprenez du monde ou des autres, mais c'est pas un métier auquel moi j'aurais pu me consacrer sincèrement. Le problème, c'est pas d'être autre chose, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. C'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez que c'est là que vous avez envie d'être et pas ailleurs. Voilà. Et moi, ça, je ne le connais pas. Je le connaîtrai jamais. Bon, c'est pas dramatique. Je pense je suis pas le seul. Mais le métier qui vous donne le sentiment d'être à votre place et d'avoir qu'il y ait un sens quand vous le pratiquez ou que il y a tellement de métiers qui servent à rien. Quand vous réfléchissez à ça, c'est un monde qui fabrique du métier inutile. Si vous le rapportez autant, c'est effrayant, quoi, se dire qu'une vie n'est que ça et qu'on ne va avoir le temps de faire que ça. Il y a un moment où ça doit être vertigineux et effrayant. Et là, je sais pas, il y a un côté qui vous fait regretter de ne pas avoir eu les capacités à la fois intellectuelles, le courage aussi. Les études de médecine aujourd'hui, c'est une machette. Il faut avoir une machette, une musculature de titan, une volonté de crabe, s'accrocher, ne pas dormir, ne pas sortir. 10 ans d'une vie. Et quand vous avez un enfant que vous aimez qui vous dit « S'il m'arrive quelque chose demain, j'aurais pas eu de jeunesse », il faut un sacré courage à 20 ans pour faire ce choix. Donc, tout est cruel et faire le choix dont on parle est une chose phénoménale. Moi, j'ai pas eu.
Vous, à 20 ans, Jean-Paul Dubois, vous êtes devenu père très tôt. Quel père étiez-vous ? Quel père êtes-vous ?
Un bricoleur. Tout ce que j'ai été, sans même m'en rendre compte, j'ai été père. Mais naturellement, je sais pas. C'était à la fois très simple et très compliqué, parce que j'ai eu un enfant qui a été très malade de sa naissance à 6 mois, 8 mois. Donc, encore une fois, les hôpitaux, l'instantanéité, c'est toujours compliqué, quoi. Mais le fait d'être père est pas plus compliqué que le fait d'être au chômage, que le fait d'être... Ce qui fait le métier d'homme, quoi, ce que vous pratiquez dans une vie, c'est inconfortable et c'est revigorant, c'est pénible et c'est... voilà, les enfants, c'est un mystère pour moi, c'est un truc... Je sais que je les aime, mais je sais pas par quel bout les prendre. Les sentiments sont naturels, la pratique de la vie ne l'est plus. Voilà, ça devient compliqué. Ça influe dans une vie, ça aussi. Ça fabrique une vie. C'est-à-dire, vous devenez quelque chose alors que vous n'aviez pas prévu d'être ça. Des enfants vont vous mettre sur une autre voie. Il y a la liberté de manœuvre, finalement, la mienne, et ça se joue sur quelques millimètres à un moment donné, sur un choix immédiat qui doit se faire. Voilà. Et c'est de l'approximation.
Et avec les petits-enfants aussi, Jean-Paul Dubois ?
C'est différent. Des petits-enfants, ça roule tout seul. Il n'y a pas d'éducation, là. Là, il y a juste le plaisir de dire des conneries avec eux, de les faire, si possible, de les dire. Là, mon petit-fils veut m'amener en Islande depuis, il me tanne depuis des années, il me dit, parce qu'il sait que j'adore l'Islande, j'y suis jamais allé, mais je me suis fait un monde de l'Islande à cause d'un film japonais. Ma petite fille est japonaise. Je suis une famille assez hétéroclite et j'ai vu un film qui s'appelle, je crois, Strange Country. Je ne suis pas sûr. C'est l'histoire d'un Japonais qui va disperser les cendres de ses parents en Islande où ils sont morts pendant un voyage. Et c'est un Japonais qui arrive à Reykjavik et qui découvre le mode de vie des Islandais. Et c'est un film qui est bouleversant, qui est génial, qui est drôle. Et je suis tombé amoureux de l'Islande à travers ce film. Et ça fait des années que je leur parle d'Islande. Mais comme si j'y étais. J'en parle mieux que si j'y étais allé, je crois.
Quel rôle ont joué les femmes de votre vie, Jean-Paul Dubois ?
Elles m'ont rendu moins con, voilà, à tout point de vue. J'ai été stupide, mais d'une stupidité incommensurable à certains moments de ma vie. Et ce sont elles qui ont... Enfin, il n'y en a pas 36, hein, ce sont deux. Ce sont mes, les deux personnes avec lesquelles j'ai vécu, qui m'ont, sans aucun côté directif, qui m'ont fait prendre conscience que il y avait quand même pas mal de choses à faire pour devenir un type acceptable. C'est une aide que ne peut apporter qu'une personne qui vit avec vous au jour le jour, qui est bienveillante, qui... Ça, c'est simple. C'est simple. C'est jamais simple de vivre avec quelqu'un, mais c'est simple de se laisser grandir sous le regard attentif et intelligent de quelqu'un. Vivre avec des gens intelligents, c'est super reposant. Surtout quand vous avez le sentiment d'apprendre. De mille et une façons. Et la vie que j'ai eue, ça a été toujours un bonheur, quoi. Parce que c'est, même si le bonheur est compliqué, même si... Moi, je crois que c'est très facile de vivre avec des gens qui sont là, vraiment.
Je ne vous demande pas Jean-Paul Dubois et Dieu dans tout ça, mais et les chiens dans tout ça ?
J'aurais préféré Dieu. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple. Non, non. Dieu, bon, je crois que je vous l'ai dit le premier jour. J'ai quitté ça, je crois, tout petit. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les animaux, c'est différent. J'ai les mêmes rapports avec les animaux qu'avec les choses. Bon, les chiens, c'est les plus abordables parce que c'est les plus lâches et les plus domestiqués, c'est ceux qui nous acceptent le plus. Quand je dis lâches, c'est qu'on les a un peu inféodés à notre mode de vie, mais ça fait partie de ma vie. Mais tous les animaux, je sauve des insectes à longueur de journée. Toute forme de vie me plaît, j'y peux rien, c'est comme ça. J'ai fait un rêve dans ma vie qui m'a foutu en l'air une fois, c'est quand j'ai rêvé que mon chien me parlait. Pendant 3 jours, je pleurais, mais plusieurs fois par jour. Vous pouvez demander ça à Hélène, elle vous racontera. J'étais ridicule, je pleurais, j'étais persuadé que Watson m'avait parlé. Et j'étais déçu, évidemment, que le lendemain, on ne puisse pas reprendre notre conversation de la veille. Il y a quelque chose de terrible dans le rapport aux animaux. Pour moi, c'est qu'on ne peut pas communiquer. Vous pouvez essayer, moi j'ai essayé. Et ça se retrouve au moment de la mort. Et quand vous voyez un chien qui s'éloigne de vous, c'est sans un mot.
Jean-Paul Dubois, dans « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », vous dites qu'il y a une infinité de façons de rater sa vie. Et vous, comment avez-vous raté ou réussi la vôtre?
J'aime bien la question. Je l'ai raté en la réussissant et je l'ai réussi en la ratant. C'est très compliqué. Là, vous rentrez dans le profond de la viande où il n'y a plus de lumière. C'est juger sa vie de son vivant en faisant une évaluation objective de tout ce que vous avez réussi selon vos critères et raté selon vos critères. C'est infini, c'est vertigineux. Objectivement, j'ai raté.
Pourquoi vous l'auriez raté, votre vie?
Parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir... été joueur de tennis professionnel, d'avoir été sportif professionnel, de pas avoir été un type qui a inventé un cœur valvulaire, de pas avoir été le héros sympathique de bande dessinée que je lisais quand j'étais gosse. D'avoir été qu'un type comme ça, quoi, un type qui... J'aurais aimé avoir une vie de bande dessinée. Une vie de bande dessinée, c'est-à-dire... Une vie d'enfance, c'est-à-dire qu'un truc où le jeu ne s'arrête jamais, voilà, où il n'y ait pas de considération adulte, où on continue à jouer. On retrouve ça dans la musique. Moi, j'ai des copains de mon âge qui continuent à faire des groupes. Ça, c'est une vie de bande dessinée. Mais le problème, c'est qu'ils le font aussi à la fin de leur vie, alors qu'ils ont consacré 30 ans de leur vie à faire des radiographies, des opérations de chirurgie. C'est comme si la vie était... un apprentissage, un monde clos, et quelques années pour aller jouer de la musique. L'innocence, ça c'est le mot que j'aurais dû vous dire dès le début. Vivre dans l'innocence. Que je n'ai pas trop connu non plus, ça m'a été retiré très tôt, mais garder ce plaisir et cette joie d'être au monde. Être au monde, simplement. Il y a des types comme ça, j'ai vu des vieux qui ont cette grâce. J'ai connu ça avec un membre de ma famille qui était mon grand-père. Berger, qui parlait très peu et qui avait la peau la plus douce que j'ai connue de ma vie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'était un type très grand, avec une grande moustache et une belle gueule. C'était un homme d'une douceur et il y avait chez lui cette innocence d'être en vie. Ne posez pas de questions, c'était bien. Vous savez, ces tenons mortaises, ces pièces de bois qui s'emboîtent naturellement, vous posez pas la question, ça, c'est impeccable. Ou ces prothèses chirurgicales, vous les assemblez. Ça vaut aussi pour la façon dont vous vivez avec les personnes que vous aimez. Vous les assemblez, vous les faites bouger, coulisser. Il n'y a pas un frottement. C'est un truc absolument parfait. C'est ça le truc, c'est cette innocence, cette perfection d'être. Et ça, vous l'avez, gamin, dans une période assez courte. Et j'aurais aimé continuer ça, avoir la lucidité, l'intelligence. L'intelligence aussi, c'est un truc. J'aurais aimé être rapide, vif. Je suis fasciné par l'aptitude intellectuelle des jeunes aujourd'hui qui pensent et qui parlent à une vitesse qui est vertigineuse. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être à la pratique du numérique qui est binaire. Mais ils ont une pensée qui est loin d'être idiote. On peut la caricaturer en disant c'est binaire, blanc-noir, c'est pas sophistiqué, pas du tout. Vous voyez que c'est une génération qui va être plus grande que nous, plus rapide dans l'appréhension du monde. Et je suis fasciné par ça. J'aurais adoré naître aujourd'hui. Mourir aujourd'hui, c'est une catastrophe parce que vous mourrez entre deux mondes. Mon père est mort à la fin de son monde. Moi, je vais mourir entre les deux rives, noyé au milieu, là. Et je vais pas voir ce qui vient, qui va être avec l'intelligence artificielle, un monde effervescent. Ça va être un truc de folie.
Et du côté de la réussite, des réussites de votre vie, Jean-Paul Dubois ?
Le temps. Voilà. J'ai été malin, très malin avec le temps. C'est-à-dire, je me suis pas laissé déborder. J'ai pas couru après des choses chronophages. J'ai rien espéré. Et puis, je me suis pas laissé faire par la vie et le. J'ai eu la chance, encore une fois, de pouvoir le faire. Mais j'ai gagné mon temps. Voilà. J'ai pas gagné ma vie, mais j'ai gagné mon temps.
Jean-Paul Dubois, vous avez dit avoir écrit des romans comme on prend des billets de loto. En 2019, vous décrochez le gros lot avec le Goncourt. Pour tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Dès lors, pourquoi continuer d'écrire ?
Je serais tenté de vous dire parce qu'après, il n'y a rien. Mais c'est pas il n'y a rien parce que je suis plus rien si j'écris plus. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que j'aime bien l'idée du médecin qui va guérir jusqu'à la mort. Voilà. Moi, je guéris personne. Mais il me semble que je vais mourir pas plus vite. Mais physiquement, je décline, j'ai moins de force. Mais je peux continuer à écrire parce que c'est rien. Tant que vous avez un cerveau qui fonctionne à peu près, vous pouvez continuer et donc avoir une activité. Voilà. Il y a des mecs qui font des mots croisés, il y a des mecs qui font des sudokus, il y a des types qui apprennent des poésies par cœur. Et moi, je fais des livres parce que je pense que ça me permet de savoir à quel point je peux être stupide, à quel point je peux être un brave type, à quel point je peux être un salopard, à quel point je peux être... Et je fais des économies de psychanalyste, je fais des économies d'orgueil, et je pense que le livre, moi, ça me recentre. C'est-à-dire, je raconte une histoire aux autres, mais aussi je me jauge, je m'évalue. Je sais les périodes de trous. Et si à la fin, je me dis, pour toi, c'est bien d'avoir fait ça. Voilà, c'est pourquoi je continue à faire des livres. Parce que le gros lot, bon, ma femme vous dirait que je suis un calviniste. L'argent n'est absolument pas un moteur, quoi. Le seul confort du loto, c'est, je reviens toujours à ça, d'ouvrir les yeux le matin et de se dire, ah, j'ai plus sommeil, je me lève. D'où le titre, tous les matins je me lève.
Merci beaucoup Jean-Paul Dubois de nous avoir accueillis toute cette semaine chez vous.
Merci à vous, c'était un très très agréable moment pour moi.
Un plaisir partagé, vraiment, merci beaucoup. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Amgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.